on démarre ce matin une nouvelle série de prédications, une petite douzaine, pour nous conduire jusqu'à l'été. On va parcourir ensemble la lettre de Colossiens. Alors on va débuter bien sûr avec le chapitre 1, les 14 premiers versets. Alors je ne sais pas comment vous êtes familier avec la lettre aux Colossiens, comment ça résonne pour vous? J'aimerais commencer avec une image, vous connaissez et reconnaissez tous ce monument français, la tour Eiffel. Alors en famille, on a eu le privilège, la grâce, il y a quelques semaines, de pouvoir y aller, de pouvoir d'y monter. Structure impressionnante, hein, ça s'élance et ça vous permet tout en haut d'avoir un point de vue assez extraordinaire sur Paris. Alors à l'époque, la construction n'avait pas tout à fait été acceptée. Aujourd'hui, ça fait consensus. Et des formations professionnelles, pour monter un édifice aussi haut, je me suis posé la question comment il allait fallu dimensionner les fondations. Je me suis dit, vu la hauteur, vu la masse, ça devait être impressionnant, ces points d'ancrage dans le sol. D'ailleurs, c'est proche de la Seine. Et surprise, la tour fait 330 mètres, elle dépasse toute la ville, hein. Mais les fondations font seulement 7 à 15 mètres de profondeur. C'est pas beaucoup. Vraiment pas. J'ai vu un petit croquis là, je crois. Bon, on voit là, on voit pas le bout, hein, mais vous voyez que proportionnellement, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que naturellement, déjà, cette tour Eiffel, elle a une stabilité, parce que voilà la manière dont elle a été conçue, dessinée. Et sous chacun de ses pieds, il y a des petites fondations, vu la hauteur. Alors même si c'est des petites fondations, il y a une sacrée prouesse technique pour les mettre en place. Je passe la manière dont ils ont été mis en place. J'aurais pu ce matin vous parler aussi de la cathédrale de Strasbourg, hein, qui culmine à 142 mètres, qui est posée sur un sol gorgé d'eau où on a planté une forêt de pieux de chêne avant même de pouvoir maçonner les fondations dessus. Et voilà, il y a des quantités d'arbres qui sont plantés dans la nappe phréatique. D'ailleurs, vous prenez n'importe quelle tour, suivant le type de sol, vous avez entre la moitié, le tiers de la hauteur de la tour qui est dans le sol. Des tonnes et des tonnes de poteaux, de béton et tout ce que vous voulez. Un travail titanesque, minutieux, pour mettre des fondations en place. Des fondations invisibles, mais tellement essentielles dans la construction et dans la pérennité de cette construction. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans la lettre de Colossiens, Paul va nous parler d'un fondement encore plus important, encore plus solide, encore plus majestueux, sur lequel repose toute notre vie, notre foi, notre avenir. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que cette lettre, probablement plus que d'autres textes, va évoquer la puissance, la suffisance, la grandeur de Jésus-Christ. D'ailleurs, de manière assez parfois vertigineuse. Et les références à Christ et à son œuvre, elles sont nombreuses tout au long de cette lettre. Et ces quatre chapitres qui vont nous encourager à soutenir notre foi, notre vie d'Église. Paul va nous montrer qu'on a tout en Christ. Jésus est vraiment tout ce dont on a besoin. Alors, pour titre à cette série sur Colossiens, Christ est suffisant. Et ma prière, c'est qu'à travers ce parcours dans Colossiens, on puisse goûter à cette suffisance de Christ dans tous les aspects de nos vies. Asseoir notre confiance, nous encourager à travers les moments qu'on traverse et qu'on puisse faire le choix de toujours à nouveau rester simplement fondé sur lui. Je vous propose déjà de lire les deux premiers versets. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, là, on retrouve des salutations habituelles, hein. On voit que c'est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Colosse. Alors, c'est une église que Paul n'a pas du tout implantée. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et probablement que c'est une église qu'il n'a même pas visitée. Qu'il n'a jamais vu ces chrétiens. Mais Paul a entendu parler de cette église et il leur écrit. Il y a de belles choses qui se passent. Et il a aussi entendu les défis que cette église rencontre. Et cette lettre va nous accompagner et nous montrer que ces chrétiens et que Paul leur dit « Attention, vous êtes face à un danger. Vous avez bien démarré avec Jésus-Christ, avec l'Évangile, vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté, mais il y a ce danger de vous détourner, de vouloir rajouter quelque chose. Il y a des enseignements qui sont attirants et qui les éloignaient de Christ, qui disaient en pratique « Christ n'est pas suffisant ». qui les détournait de Jésus. Oui, c'est bien de commencer avec Jésus, de commencer avec l'Évangile, mais maintenant, si tu veux grandir, si tu veux expérimenter des choses, il te faut passer à autre chose. Comme si la vie chrétienne était faite de niveaux, comme dans un jeu vidéo, hein, Jésus niveau 1. Et après, il faut passer à autre chose. Non, répond Paul tout au long de sa lettre. Et c'est vrai qu'on aurait aussi cette tentation de se dire de passer à autre chose, de vouloir plus d'expérience, de voir plus de nouveautés, de chercher l'originalité, de chercher des enseignements qu'on souhaite le plus original possible, ou vivre l'Église autrement, mais Colossiens répond, vous avez tout en Christ. Christ est pleinement suffisant. N'y rajoutez rien. Matthieu, il a introduit ce texte avec Hébreux, qui nous montre d'ailleurs aussi cela. C'est pas une surprise quand on dit que toute la parole de Dieu nous parle de Christ. Elle est centrée sur Jésus. Que chaque livre de la Bible, le livre des rois qu'on a vu, nous amène à Christ, à contempler Christ, à contempler son œuvre. Et dans cette lettre de Colossiens, on aura un concentré de Jésus. Et on va voir que peu importe où on en est en tant que chrétien, si on est chrétien depuis quelques semaines, si on est chrétien depuis des mois, des années, peut-être des décennies, qu'on soit en train de vivre des moments spirituels compliqués, qu'on soit au fond du trou, qu'on soit peut-être en train de vivre des moments forts, ou peut-être vous êtes entre les deux, Christ est suffisant. Peu importe, c'est Christ. Du premier pas jusqu'à la fin. Sans lui, pas de croissance, ni rajouter rien. Encore une image qui pourrait nous aider, on parlait de fondation, mais c'est l'idée d'un chêne. Prenez un chêne. Un chêne développe ses racines dans la terre. Toujours au même endroit. Toujours plus profondément. Et c'est là qu'il va puiser ce qui est nécessaire pour sa croissance, pour grandir et devenir cet arbre majestueux, centenaire. Colossiens, c'est la même chose. Puiser dans Christ, dans les mêmes vérités, au même endroit. Il n'y a pas autre chose, va nous dire Paul. Et pour preuve, je vous prendrai simplement le verset clé peut-être de ce livre qu'on a au chapitre 2, versets 6 et 7. Si vous pouvez l'apprendre pendant les prochaines semaines, vous pouvez peut-être le souligner si vous voulez. C'est peut-être le verset qui résumerait l'ensemble de cette lettre. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Là, on a tout. Et d'ailleurs, dans les versets qu'on va prendre en débutant cette lettre, on va retrouver ces mêmes vérités que Paul résume dans ses versets 6 et 7. Vous avez tout en Christ, de la même façon que vous l'avez accueilli. D'ailleurs, ça fait écho au slogan qu'on a en ce moment au niveau de l'Église, de s'émerveiller, connaître et de faire connaître Christ. Christ suffit. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte, que Christ est suffisant. Et quand on réalise que Christ est suffisant comme Paul, Paul va aller dans deux directions. Il va être reconnaissant et il va prier. Et c'est les premiers versets de ce texte. Il va être reconnaissant et il va prier. Regardez avec moi, lisons ensemble les versets 3 à 8. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il vous est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Premier élément. La première réaction lorsqu'on réalise que Christ nous suffit, c'est qu'on est reconnaissant. Soyons reconnaissants pour ce que Christ a déjà fait. Et c'est ce qu'on voit dans ces versets. Paul, il dit « Merci pour l'œuvre de l'Évangile, merci pour Jésus-Christ, merci pour ce qu'il a déjà fait. » Et ce qu'on a sous les yeux, c'est une prière de reconnaissance. Paul dit « Merci à Dieu. » Et Colossiens va être une lettre profondément marquée par cette reconnaissance et par cette joie. Et qu'est-ce qui pousse Paul à être reconnaissant ? « Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ. » Et à l'amour que vous avez. Paul prend le temps de remercier Dieu pour la foi et l'amour de ses chrétiens. Paul, il sait que cette foi et cet amour n'est pas naturelle, elle vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et le fait que cette église et que ces croyants aient foi en Christ, c'est un miracle. L'église de Colosse, pour la plupart, étaient des païens. Ils n'avaient aucune connaissance ou pas du tout familier d'un Dieu unique tel qu'il s'est révélé à Israël et tel que l'avons dans l'Ancien Testament. Mais ils ont un jour entendu parler de l'Évangile. On pourrait se dire brièvement qu'est-ce que c'est l'Évangile, hein. L'Évangile, c'est bonne nouvelle. On employait ce terme pour annoncer une victoire en revenant d'un champ de bataille. Alors, vous vous imaginez, vous êtes dans une ville et il y a quelqu'un qui arrive en courant, qui vous annonce la bonne nouvelle, on a gagné, la victoire a été remportée. Et la bonne nouvelle dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, en tant que chrétien, c'est que la victoire, elle est en Christ, elle a été obtenue sur le péché, sur la mort, sur le diable, parce que Christ a fait à la croix, la résurrection, tout ce qui l'accompagne, voilà la bonne nouvelle. Et que tous ceux qui croient à ce message-là sont en bénéfice de cette victoire. Et les Colossiens, ils ont entendu ce message de ce que Jésus-Christ a accompli pour eux, de la grâce. Ils ont fait demi-tour, ils ont mis leur confiance dans cela et Paul leur dit « Quel miracle ! Merci Seigneur !» Le simple fait que on ait placé notre foi en Jésus-Christ, ça pousse à la reconnaissance. Alors si vous avez déjà eu le privilège de voir quelqu'un découvrir Christ, découvrir la foi chrétienne, vous savez à quel point c'est une grâce et un cadeau extraordinaire de Dieu. Et ici, on a déjà un petit enseignement pour nous. On remercie souvent pour tout ce qu'on vit, les biens physiques, la santé, le travail, la réussite, mais le plus grand sujet de reconnaissance dans lequel Paul veut constamment exprimer sa reconnaissance, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Alors si vous manquez des occasions de vous réjouir, regardez autour de vous. Regardez ces personnes que Dieu a placées à vos côtés et qui ont rencontré Dieu. Et ici, Paul ne les connaît pas personnellement et il se réjouit et il dit « Merci Seigneur, merci pour la foi de mes frères et sœurs, cette œuvre unique !» Quel enseignement pour moi ça a été de se dire de voir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ma propre foi, elle est nourrie. Merci pour Dieu, ce que tu fais dans la vie de l'autre. Merci pour l'aide que tu as eue, tu l'as cherchée. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu l'as relevé, tu l'as restauré, tu lui as donné un avenir. Merci pour cette situation. Paul remercie pour leur foi. Paul remercie pour leur amour qu'ils ont. Les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir la foi sans avoir un amour qui déborde. On l'a vu dans notre série en septembre, je ne vais pas revenir, parce que l'Évangile, la venue de Christ nous change profondément. L'amour reçu de Dieu déborde, on ne peut pas le garder. Bien sûr, pas toujours parfaitement. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Regardez le verset 8. L'amour des Colossiens, d'où est-ce qu'il vient ? Nous avons appris de quel amour l'Esprit vous anime. Qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu dans nos vies ? Il nous donne de l'amour pour nos prochains. Quand on a reçu l'Évangile, ça nous transforme et ça nous amène à aimer l'autre, à nous investir, à servir et à nous donner. Et comment Dieu a produit ces choses dans la vie de ces personnes ? Versets 4 et 5. Hein. Nous avons été informés de votre foi, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'évangile. Merci pour l'œuvre de l'évangile, simplement, pour ce que Dieu a fait. Cette espérance change tout. Vous étiez sans espérance dans le monde, vous étiez sans avenir, vous étiez sans certitude face à la mort, vous étiez ignorant des choses de Dieu, un peu comme un passager dans un train qui ne sait pas que ce train se dirige vers le ravin. Dieu est intervenu et vous a donné une espérance. Dieu vous a donné son Fils, Jésus-Christ. Jésus a tout accompli. Merci pour l'œuvre de l'Évangile. Et vous le voyez dans ces versets, l'Évangile, cette réception du Seigneur, c'est une certitude, c'est une sécurité. Verset 5, une espérance qui vous est réservée. Il y a votre nom dessus. Votre nom est inscrit dessus. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des courses au drive, Carrefour, Fnac, qu'importe. Hein. Vous êtes depuis chez vous et vous validez une commande. Ton nom est inscrit sur la commande. Il y a parfois un seul article en stock à Fnac. Voilà, vous commandez ce livre. Une fois que vous l'avez payé, il va être mis de côté. Il est pour vous. Vous allez le récupérer dans 2 heures. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous allez au magasin tout tranquille. Vous allez pouvoir peut-être même prendre un café sur la route. C'est réservé. Votre nom est inscrit. Et c'est quelque part pareil avec l'espérance en Christ. Christ vous a scellé. Vous lui appartenez. Vous êtes en sécurité. C'est ce que nous dit ces versets. Vous n'avez rien à faire pour le gagner ou le mériter. Dieu vous a déjà tout donné. C'est en sécurité. Merci pour l'œuvre de Christ. Wow. Alors ce matin, si vous doutez, ou si vous vous questionnez, si vous réalisez que vous n'avez pas ce type d'espérance, la parole de Dieu nous dit que en Christ, il y a ces certitudes-là. Il y a de quoi nous en réjouir. Creusez, lisez, questionnez-nous. On est disponible pour vous en parler. Alors, premier point que Paul exprime dans sa prière de reconnaissance, c'est merci pour l'œuvre de Christ. Plus courtement, dans un deuxième élément, il dit merci pour la puissance de l'évangile. La puissance. En fait, ce qui s'est passé chez les Colossiens, Paul le dit là, ça se passe ailleurs aussi. Regardez avec moi le verset 6 qu'on a lu. Cet évangile, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Wow. On voit que l'évangile, que ce message de Jésus-Christ, il est dynamique, il est puissant, il se répand dans cette ville, il impacte des vies, mais il va même plus loin, il porte des fruits au-delà. L'évangile n'est pas dynamique dans le sens où ce message, il est toujours mis à jour, où il faut le changer, où il évolue. Non, le message de Christ, de sa mort et de sa résurrection n'a pas changé depuis que les apôtres l'ont enseigné, depuis que Paul l'a enseigné, depuis que les Colossiens l'ont reçu, nous l'avons reçu dans la même façon. Il ne change pas. Mais ce message est puissant et dynamique parce qu'il change des cœurs, il change des vies, il se répand partout et on ne peut pas l'arrêter. Et je crois que ça le pousse profondément Paul à la reconnaissance. Il s'est dit, wow, je suis serviteur et je vois ce message qui parcourt des régions, qui parcourt des villes, des villages et des vies qui sont transformées. Et on voit dans ce texte que l'évangile ne progresse pas comme ça, comme quelque chose qu'on ne verrait pas. Mais ce message est arrivé à Colosse parce qu'il a été partagé par Épaphras. Dieu s'est servi de cet homme pour agir dans les cœurs. Et si on y pense, Paul a écrit cette lettre probablement 30 ans après le départ de Christ. 30 ans, il a fallu 30 ans pour que l'évangile touche une grande partie du bassin méditerranéen. Il s'est répandu partout, pas par les armes, pas par la force, mais par la simple proclamation, partage de chrétiens, d'hommes et de femmes qui ont été transformés, qui ont été de simples messagers, malgré l'opposition et les persécutions, malgré qu'on voulait déjà rapidement étouffer ce message qui dérangeait. On ne peut pas l'arrêter, parce que l'évangile est trop puissant. Et c'est précieux pour nous aujourd'hui de nous rappeler cela, parce qu'on court le danger d'oublier que ce message peut toucher des vies. Dans notre monde, on pourrait dire dans notre monde occidental, en Europe, en France, où chrétien n'a pas toujours bonne presse, C'est pas toujours à la mode. On n'est peut-être pas nombreux. On voit peut-être pas toujours toutes ces conversions. On ne voit pas les conversions. On pourrait en douter. Mais l'évangile n'a pas changé. Et nous qui sommes rassemblés, nous voulons le démontrer. Il porte toujours du fruit depuis plus de 2000 ans. On le voit avec les baptêmes et les baptêmes qui sont devant nous. C'est toujours une joie de voir ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Et c'est gloire à Dieu. Il est puissant. Je le partage régulièrement, mais une de mes plus grandes joies dans mon ministère et dans ma responsabilité, c'est d'entendre vos histoires avec Dieu. C'est d'entendre vos rencontres avec Dieu. Comment vous en êtes venu à croire à ce message-là? Les récits et vos situations sont tellement variés. Mais qui, tous ensemble, montre combien ce message, il est tellement extraordinaire. C'est vraiment encourageant. La puissance de Dieu qui touche une vie. Alors si vous doutez que ce message est puissant, peut-être dans votre situation actuelle, regardez autour de vous. Regardez autour de vous dans l'Église. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. Demandons-nous les uns les autres, et je sais qu'on pratique beaucoup l'hospitalité ces derniers temps, demandez-vous les uns les autres comment Dieu vous a touché ou comment Dieu vous touche actuellement. Écoutez ce que Dieu fait ailleurs, peut-être que de votre propre vie. On pourrait regarder, et là je ne vous parle pas du tout de regarder ce que Dieu fait dans des pays où la foi est bannie, où c'est hostile d'être chrétien. C'est tout un autre volet. Personne ne pourra faire taire ce message. Moi, je suis toujours touché à nouveau quand je regarde la manière dont l'évangile est entré en Corée du Sud. En quelques années, ce pays a été transformé. Alors bien sûr, il y a des bonnes et des mauvaises choses, mais de façon radicale, ce message est puissant. Où est notre confiance ? Dans la puissance de ce message ? Cette église de Colosse existe par Christ, par cet évangile, et dans notre vie aussi. Un message qui transforme les cœurs. Est-ce qu'on sera les Épaphras pour ceux qui sont autour de nous? Est-ce qu'on sera les Épaphras pour notre ville, pour nos amis, pour nos voisins, pour tous ceux que Dieu place autour de nous? Parce que c'est au travers de messagers que ce message est partagé. L'évangile suffit, mes amis. Pas besoin d'artifice. Il n'y a pas besoin d'essayer de rendre plus attirant, de modeler certaines choses. Oui, on doit le communiquer clairement avec les mots d'aujourd'hui. Mais c'est toujours le même message que nous sommes appelés à présenter. On pourrait être souvent tenté de passer au niveau 2 de la vie chrétienne. Et Paul répond, voyez ce que vous avez reçu. Voyez la manière dont vos vies ont été transformées. Pourquoi passer à autre chose? Rien n'est plus puissant. Et c'est vrai qu'on pourrait être blasé par ce message. On se dit, j'ai besoin d'autre chose. Tous ces récits, je les connais, je les ai déjà entendus depuis la garderie. Mais Paul nous rappelle et s'émerveille devant Dieu de ce que Dieu fait dans la vie. C'est un peu comme les beaux paysages qui sont devant votre fenêtre et qui, à la longue, vous ne les voyez plus. Mais Paul, pour cultiver cela, nous encourage à reconnaître ce que Christ a déjà fait. Et dans la suite du texte, Paul est conscient que ça suffit, mais il voit aussi ce que Christ doit encore accomplir parmi nous. Et c'est mon deuxième élément. Prenons le temps de prier pour ce que Christ doit encore accomplir dans nos vies. Et je vous propose de continuer les versets 9 à 14. Vous avez vu l'enchaînement ? Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Je ne vous cache pas qu'en préparant ce texte, C'est du solide. C'est ouf. Mais on voit que dans cette suite, simplement, si vous balayez comme ça, que ce qui compte le plus pour Paul, c'est que ce qui est le plus cher à son cœur, sa priorité, parce que voilà, il dit « je prie constamment », Paul prie pour que cette fois, cet amour, la manière dont ils ont commencé, se poursuive. Et vous avez peut-être entendu qu'il y a énormément de mots qui font le parallèle avec ce qu'on vient de lire avec la prière de reconnaissance. Il y a plein d'expressions que vous pourriez souligner, qu'on retrouve dans les premiers versets, qu'on retrouve dans cette portion de prière. Il y a une symétrie. Vous êtes probablement, parce qu'en tout cas c'est mon cas, vous avez probablement déjà entrepris un projet où vous êtes donné à fond. Un sport peut-être, vous vous êtes dit là, je vais y aller à fond. Un musique, vous apprenez un instrument, une passion. Et puis, du jour au lendemain, la motivation s'est arrêtée. Vous avez peut-être commencé une activité sportive et à bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, j'en ai un peu marre là. Un instrument de musique, j'ai commencé un peu à me remettre à la guitare et au bout d'un moment, la motivation n'était plus tant celle qu'elle était au départ. Et on est assez surpris, on n'a pas l'énergie de continuer, on aspire à autre chose peut-être. Eh bien, la parole nous montre qu'il y a un domaine où on ne pourrait jamais nous arrêter. C'est la vie chrétienne, c'est la marche chrétienne. On parle de marche avec le Seigneur parce que c'est dynamique. Hein. Il y a une dimension d'avancée. À aucun moment, vous pourriez dire « j'en sais assez ». J'ai plus besoin de venir, j'ai plus besoin d'écouter. J'ai assez travaillé à ce que le Seigneur doit travailler dans mon caractère. Jamais. Le travail de Dieu va continuer. La vie chrétienne est exigeante et on le voit dans la manière dont Paul prie, elle est belle. Dieu veut notre progrès. Dieu veut que notre connaissance de lui augmente. Dieu veut que notre marche avance. Dieu veut que notre reconnaissance pour lui augmente. Et Paul ne fait pas dans les détails, vous l'avez peut-être remarqué, mais il demande que les Colossiens soient remplis de connaissances en toute sagesse, qu'ils plaisent à Dieu en tout point de vue, qu'ils portent du fruit en toutes sortes, qu'ils deviennent puissants à tout égard et qu'ils soient tout à fait persévérants. Il y a le tout, tout, tout. On devrait donner à nos vies chrétiennes ce même objectif que le sportif, avec les Jeux Olympiques, j'apprécie de voir et d'écouter les commentaires de nos stars un peu. Ils veulent absolument participer aux JO, ils font tout, mais ils veulent pas juste participer, ils veulent la médaille d'or. Et la vie chrétienne, et c'est ce que Paul est en train de montrer là, que Christ, que Dieu veut pour nous, c'est qu'on progresse. Paul prie sans cesse. Il y a vraiment la notion d'importance. C'est ce qui doit être important pour nous, c'est de grandir. En tout cas, Paul a mieux compris que moi. Il a compris que prier pour cela est important. Je trouve la prière influence la vie des autres. Il prie pour des gens qu'il ne connaît pas. Il ne dit pas « je prie juste pour vous ». Il dit « je prie pour que vous grandissiez, pour que vous portiez plus de fruits ». Et c'est encourageant d'entendre que quelqu'un prie pour nous. Alors n'hésitons pas. Moi, le nombre de fois où ces derniers temps, des personnes se sont approchées de moi, ils ont dit « Josué, je prie pour toi parce que je sais que tu en as besoin ». Quand tu pries pour quelqu'un, dis-lui. C'est encourageant. J'aimerais relever trois éléments où Paul prie pour qu'on progresse. Premier élément, on l'a entendu, pour que vous connaissiez mieux Christ. C'est le verset 9. Paul prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Paul prie pour que vous en connaissiez davantage, si on le dit avec nos mots. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête quand vous pensez à volonté de Dieu. C'est tout simplement ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut ? Il veut qu'on le connaisse. Il aimerait qu'on sache ce qu'il attend de nous. Notre obéissance, notre persévérance, notre progrès, justement, dans la marche chrétienne. Mais comment vous faites pour le connaître ? C'est pas une chasse au trésor. C'est pas un jeu de piste. C'est pas une énigme qu'on doit essayer de déchiffrer. Il n'y a pas besoin d'attendre des signes. Parfois, il en utilise, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin que Dieu nous écrive une lettre sur le mur, comme il l'a fait à d'autres endroits. Pour connaître la volonté de Dieu, il suffit d'ouvrir la parole de Dieu. La vérité. On peut la lire en français. Vous en avez tous plusieurs exemplaires à la maison. Chercher la volonté de Dieu, c'est la lire et essayer de comprendre à ce qu'elle nous dit. de comprendre ce que Dieu nous dit, de comprendre quel Dieu nous avons et de nous l'approprier. Et de nous dire, mais qu'est-ce que ça change de savoir ça dans ma vie ? Et quand Paul prie pour que les Colossiens connaissent Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est cela, pour qu'ils découvrent. C'est pas une connaissance théorique, c'est une connaissance qui parle d'un style de vie qui doit changer notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'interagir avec les autres. Et Paul précise en toute sagesse et intelligence spirituelle. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là parce que, autrement dit, Paul est en train de dire, laissez le Saint-Esprit éclairer vos vies. Éclairer ta réflexion. Être chrétien, c'est pas éteindre son cerveau, c'est réfléchir, c'est discerner avec son aide, avec sa parole, avec son esprit. On a besoin de remplir de ce qui est bon, juste, de ce qui vient de Dieu et que cela descende jusqu'au cœur. Et on le voit dans la deuxième demande parce que Paul prie pour que vous marchiez dignement, que vous ayez une vie qui plaise à Dieu. Versets 10 et 11. Paul prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progressez dans la connaissance de Dieu. La logique de Paul, elle est là. Plus vous connaissez Dieu, plus votre vie est appelée à lui plaire. Et Paul, comme je le disais, il ne le fait pas dans la demi-mesure. Elle doit plaire entièrement. Aux traductions, à tout point de vue. La barre, elle est haute. Hein. Pour moi, je me suis dit, c'est comme viser 50 pompes quand j'en fais à peine 2. Impossible, c'est beaucoup trop. On se dit, mais Paul, il met la barre ici. Comment est-ce que c'est possible de lui plaire à tout point de vue, à lui être agréable ? On dit, c'est un idéal, personne ne le peut. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais pourtant, ça doit être notre cap. C'est comme pour les pompes. Si je m'entraîne, je vais progresser. Sans objectif de progrès, je vais stagner. Si je pars perdant d'avance, en disant, bah, j'y arriverai jamais, je ferai jamais de progrès dans ces domaines de ma vie qui ne plaisent pas à Dieu. Ben non. C'est pas juste une manière de parler. Dieu n'est pas indifférent à nos vies. Nos choix peuvent lui plaire ou lui déplaire, mais il veut agir, il veut intervenir. Son amour pour nous comme un parent envers ses enfants ne va pas changer, mais il souhaite qu'on progresse. Alors vivons sous le regard de Dieu. Et on pourrait s'interroger, qu'est-ce qu'il voit de nous ? Quels sont les actes et les attitudes qu'il observe dans nos vies ? Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches ? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées ? Qu'est-ce qu'il voit dans nos cœurs ? Qu'est-ce qu'il voit dans la manière de réagir ? Est-ce que ça lui est agréable ? Et c'est vrai, je le disais, on est rapidement, moi je connais mieux mon cœur que vous ne le connaissez, et on peut être vite découragé. On voit pas nos progrès, on voit nos échecs, on voit notre épuisement, on a envie de tout lâcher, on voit nos reculs, on voit notre amertume, on voit notre colère, on voit notre aïe aïe aïe. On voit tout, tout de suite, et on se dit « Ah !» Et le Seigneur nous dit « Non, déposez cela. » Et ce que je trouve beaucoup, Dieu travaille dans la durée avec nous, mes amis. Attendez-nous à lui. Il poursuit son œuvre. J'aime beaucoup cette expression qu'on trouve « Attendez-vous au Seigneur Jésus-Christ. » Attendre, s'attendre à Dieu, parce que Dieu poursuit son œuvre. Et c'est ça l'objet de la prière de Paul, c'est ça son cœur. Et Paul, il donne 4 participes, hein, 4 modalités. Vous porterez du fruit, vous progresserez encore dans la connaissance de Dieu et vous serez fortifiés et vous rendrez grâce. Comment tout cela est possible ? On porte du fruit et là, on a toute l'imagerie qu'on retrouve dans la Bible hein, parce que vous êtes attachés à Christ. On n'est pas sauvé par de bonnes œuvres. On le sait, on le dit. Mais quand on est enraciné en Christ, sauvé par Christ, ben ça déborde et on en porte un fruit. On porte des attitudes, on porte des comportements, on porte des fruits qui sont à la gloire de Dieu. Et Paul parle encore de connaître. En fait, il y a un effet boule de neige. Vous allez connaître Dieu, la personne de Dieu, vous ferez des progrès dans ce que vous aurez compris de Dieu. Et c'est vrai, quand on s'attend à Dieu, à se dire « mais j'ai envie de compter sur lui pour porter de bons fruits », on va comprendre beaucoup mieux la fidélité, sa patience à son égard, sa grâce, parce que je peux recommencer à zéro. Et parce que son amour ne change pas. C'est pas comme on commence avec Christ, on le met sur l'étagère et on attend le level 2. Non, on veut s'approprier toujours plus profondément toutes les vérités qui sont cachées en Jésus-Christ, dans nos racines, dans nos fondations. Est-ce qu'on a vraiment pour but de mieux connaître Dieu ? Examinons nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre sur mon caractère ? Peut-être sur sa patience envers moi, sur sa fidélité, sur sa correction. Peut-être il veut m'appeler à changer, à me repentir, à plier le genou parce que je suis rebelle à lui. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ? On porte du fruit, on grandit dans la connaissance de Dieu et on est fortifié à tout point de vue. C'est ce que j'aime beaucoup, je parlais des fondations tout à l'heure. On s'enracine. Paul le dit cash, un chrétien authentique, c'est une personne qui, fur et à mesure, est solide, qui sait où sont ses fondations, où sont ses racines. Une personne qui va progresser dans les épreuves. On a les adjectifs patient et persévérant. Là, on est vraiment dans la temporalité. Dieu nous rend petit à petit plus stable, plus ferme, parce qu'on aura compris plus profondément tout ce qu'on a en Christ. À tenir bon, quel que soit, qu'entre bon et vent et marée. Je pense que vous avez probablement déjà rencontré ou côtoyé des chrétiens touchés par une longue et dure maladie. Terrible maladie. Et vous avez vu que Dieu leur a rappelé tout ce qu'ils avaient en Christ. Et vous êtes repartis de chez eux encouragés. Je me rappelle le nombre de fois où les gens qui ont visité mon père, touchés par le cancer, sont ressortis encouragés. Il n'y avait plus d'avenir sur cette terre. Mais il était encouragé de sa certitude de Christ. Il était ferme dans ses appuis, non pas parce qu'il avait fait plein de choses, mais parce qu'il savait où était sa sécurité en Christ. C'est la force de celui qui fait face à l'incertitude de l'avenir parce qu'il sait où tout cela va le conduire, mon espérance. Et on le voit dans le texte, c'est pas par nous-mêmes, hein. Vous êtes fortifiés par sa puissance glorieuse, par l'œuvre de Christ qui vous dépasse et que vous ne pouvez pas comprendre. Et enfin, dernier élément que Paul demande, quand il réalise que Christ suffit, il y a de la reconnaissance. Et ça, c'est les versets 12 à 14. Et là, on a un résumé magnifique de notre salut, de ce qu'on a en Christ. Je relis les versets 12 à 14. « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Là, vous avez tout ce que Christ fait dans votre vie. Et c'est ce que je me suis dit avec tout ce que Dieu attend de nous. Je ne sais pas vous, mais on pourrait se sentir accablé. Mais le verset 14 ici nous dit que Dieu a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Pour ceux qui aiment le foot, le sport en général, une équipe de basket, de cyclisme, il y a parfois des transferts entre équipes. Des joueurs qui passent d'une équipe à l'autre. Et bien souvent, ces équipes après sont opposées. On connaît hein, tous... un Mbappé qui allait au Real et qui un jour sera affronté à Paris. Bref, et ce transfert a coûté cher. Et c'est ce que dit ce texte. Vous êtes passé d'une équipe à l'autre. Il y a eu un grand transfert dans des équipes totalement opposées. Le texte nous dit vous êtes passé de l'équipe des ténèbres à celui de la lumière. Vous êtes passé du royaume de Satan au royaume du Fils bien-aimé. Vous êtes passé de l'équipe des perdants à l'équipe des winners. Des condamnés, vous êtes passés à l'équipe des pardonnés. C'est le plus grand transfert qu'on puisse imaginer. Et le plus impressionnant, c'est que vous n'avez rien fait. C'est Dieu qui a tout fait, c'est Dieu qui a tout payé. Alors qu'est-ce qu'on aimerait demander de plus ? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir de plus ? C'est quoi le level 2 qu'on attendrait ? Paul, il dit, avant vous étiez dans l'équipe des perdants. Vous aviez le poids de votre péché. Vous aviez le destin d'une mort éternelle et Dieu vous a pris parmi lui, dans une équipe, avec une nouvelle citoyenneté, un nouveau passeport, avec une nouvelle identité. Et ça, c'est incroyable. Et je me dis, mais est-ce qu'on est capable de prendre du recul sur ces choses-là ? Et c'est ce que Paul y fait, hein, en introduisant, il se dit, ben, Paul y prie pour qu'on réalise ce trésor pour qu'on réalise que on puisse exprimer de la reconnaissance que Christ suffit. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Alors on connaît son cœur, je connais mon cœur qui est souvent négatif. Je sais pas si c'est juste moi, hein, mais on se plaint plus que de remercier. On se plaint plus. On voit les choses qui vont pas dans la vie des autres, bien sûr. Et c'est vrai, c'est dur parfois. Parfois, on est dans le trou en raison des circonstances de la vie. C'est raison en raison de nos choix. Il y a parfois des, on est dans des situations inextricables, mais parce que on a désobéi à Dieu en raison de notre péché, tout simplement. Je vous renvoie simplement à la prédication de dimanche dernier. Mais Paul, il nous dit, on devrait toujours avoir comme sujet de reconnaissance, parce que ces versets sont vrais. Oui, mes péchés sont pardonnés. Je fais partie du royaume de Dieu. Je ne suis plus des ténèbres. Merci Seigneur. Et pourtant, c'est si difficile d'être reconnaissant. Et on a besoin que Dieu ouvre nos yeux et qu'on voit toutes les merveilles de tout ce qu'on a en Christ. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a que deux équipes. Alors je crois que cette lettre de Colossiens sera peut-être l'occasion pour nous de réfléchir toujours à nouveau à quelles sont nos fondations. C'est peut-être l'occasion de discuter avec quelqu'un. Je suis heureux de pouvoir le faire avec vous si vous en avez besoin. Soit après le culte, soit à un autre moment. Ne laissez pas ces questions traîner. Où sont vos fondations? Et Paul, son remède, il médite ce que Christ a accompli. Il revient à la croix. C'est pas juste quelque chose qui nous a sauvés par à un moment, une fois, mais c'est votre fondement de toute votre vie, sur ce qui était et ce qui est maintenant devenu. Et je crois que si on est imprégné de tout ce que cela veut dire, on aura envie de continuer. On ne sera pas comme le sportif ou le musicien qui va abandonner. Alors on veut être une église qui porte du fruit. On veut progresser dans la connaissance de Dieu. On veut tenir ferme de façon joyeuse et persévérance. On veut garder les yeux fixés sur notre héritage céleste. On veut exprimer notre reconnaissance à Dieu. Alors gardons les yeux fixés sur notre fondement. Christ est suffisant.